Pour réécouter l'émission et la partager, on adore ça. Place à Ma France, toute l'actualité de vos régions, c'est Wendy Bouchard.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Ma France. Une France dans laquelle les agriculteurs ne veulent pas lâcher l'État sur le protocole sanitaire lié à la dermatose nodulaire. Une ferme en Ariège cristallise le sujet aujourd'hui. 400 paysans mobilisés pour interdire l'abattage de plus de 200 bêtes contaminées. Nous sommes sur place avec notre reporter et vous entendrez notre invité, le président de la coordination rurale, Bertrand Vantaud, à leur côté, et les actions à venir, notamment sur ce dossier. Un traumatisme pour les 700 salariés de Brandt. La justice a annoncé la liquidation du dernier fabricant français d'électroménager. Les espoirs pourtant se tournaient autour d'une reprise en scop. C'est un coup dur et nous sommes là encore au plus près devant l'une des usines du groupe. On vous détaille aussi notre panier de Noël pour ici à Nielsen IQ. Autour de 12 produits de fête, en légère baisse ce panier par rapport à l'an passé. En revanche, le prix du chocolat explose partout en France. Je vous embarque aussi au cœur d'une opération anti-drogue sur un point de deal à Rouen et dans un repas de Noël solidaire organisé par la Banque Alimentaire. Et puis vous entendrez des Français bien heureux de l'ouverture des marchés aux truffes dans le Gard. Reportage à Uzès. Et on commence donc ce journal avec un coup de massue. La justice a prononcé ce matin la liquidation du groupe Brandt, dernier fabricant d'électroménager français et fleuron industriel. Les 700 salariés s'accrochaient à l'espoir d'une reprise en SCOP, société coopérative, en partenariat avec le groupe Revive, soutenu par l'État et par les collectivités. Mais voilà, le tribunal des affaires économiques de Nanterre n'a pas cru au projet. Lydie Lahaye, on vous retrouve pour ici Orléans, devant l'usine, une des usines du groupe à Saint-Jean-de-la-Rouelle. Et c'est un traumatisme évidemment pour les employés de Brandt et pour leur soutien, Lydie.
Oui, la réunion, exactement, Wendy, la réunion se termine là à l'instant, qui avait débuté il y a une demi-heure. Des salariés rentrés, visage fermé, très peu s'exprimant sur ce coup de massue. C'est effectivement la fin de Brandt à Saint-Jean-de-la-Ruelle, en banlieue d'Orléans. 250 personnes, certains travaillent même ici en famille. La colère, elle s'est exprimée en revanche au micro, de manière très claire, celle des élus qui participaient aussi à la réunion. Le maire d'Orléans, Serge Brouard, qui a parlé d'une décision injuste. Cet outil industriel est viable. On ne nous a pas laissé assez de temps, c'est ce qu'il a dit. On rappelle que les collectivités locales, métropoles et régions avaient mis sur la table 20 millions d'euros pour sauver Brandt. Les banques privées, elles sont accusées de ne pas avoir suivi. Elles ont mis 4 millions. C'est que dalle, a répété le maire d'Orléans. Même incompréhension du président de la région, François Bonneau, qui est sorti à l'instant très ému et qui parle d'une décision d'une extrême violence pour 700 salariés. Et au total, à quelques jours de Noël, on ne peut pas accepter de voir partir les marques connues de tous les Français, Brandt, Sauter, De Dietrich, la fabrication de fours et de plaques à induction à l'autre bout du monde. C'est notre savoir-faire et les salariés qui sortent à l'instant n'ont qu'un seul mot à la bouche, c'est un immense gâchis.
Et on comprend évidemment ce traumatisme, vous venez de l'évoquer, Lydie, là, et pour ces salariés, 700 emplois supprimés en effet à quelques jours de Noël. Autre élu mobilisé, le sénateur socialiste du Loiret, Christophe Chailloux, ancien maire de la commune où vous réagissiez, où se trouve cette usine principale du groupe. Il réagit à cette liquidation, une douche froide après tant d'espoir de reprise.
Je suis à la fois abasourdi par cette décision et très en colère. Abasourdi parce qu'il s'agit de 700 salariés, 350 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, des ouvriers, des ouvrières, des cadres, des ingénieurs qui se sont consacrés à faire vivre ce made in France est complètement en colère parce que alors qu'on érige la souveraineté industrielle en priorité, on laisse filer des marques iconiques, une entreprise qui fonctionne. Et voilà, on a un vrai souci aujourd'hui dans notre pays de gérer de façon cohérente ces dossiers-là. Moi, j'avais hier attiré l'attention du gouvernement et du ministre en séance de questions orales au Sénat sur la nécessité de se mobiliser pour sauver Brandt. Ça n'a pas fonctionné. Je suis vraiment et abasourdi et très en colère.
C'est à l'État que vous en voulez ?
Non. Je dis que dans notre pays, on a un vrai souci de mobiliser de moyens financiers, notamment lorsqu'on est confronté à ce type de situation. Moi, je regrette beaucoup que sur le dossier Brandt, par exemple, les pouvoirs publics se sont largement investis. Là, je ne critique pas, mais il manque quand même le secteur bancaire, il manque le secteur privé. Quoi. À un moment donné, les pouvoirs publics ne peuvent pas se substituer à ce qui est aussi l'économie. Quoi. Donc on a besoin de mécanismes qui nous permettent d'agir rapidement, d'injecter de l'argent avec des fonds de soutien sur ce type de démarche, à travers les SCOP notamment, parce qu'on peut pas se laisser faire comme ça, laisser fermer nos usines, notre savoir-faire, notre capacité d'innovation, c'est vraiment terrible.
Le sénateur socialiste du Loiret, le gouvernement a fait part de son côté de sa profonde tristesse après l'annonce de la liquidation judiciaire du groupe Brandt. Je vous rappelle que l'État mettait 5 millions d'euros sur la table. Il est 13h05 et dans Ma France, nous accompagnons les colères et les inquiétudes agricoles. Cela fait des semaines que nos journalistes sur le terrain suivent ces paysans en détresse face à la propagation de la maladie virale de la dermatose nodulaire. 110 foyers de contamination dans notre pays, 8 régions touchées et la semaine passée, une bascule forte qui a poussé les paysans à se mobiliser. Dans le Doubs, un troupeau de 83 vaches et veaux a été abattu en dépit de la vaccination des bêtes. On est passé, disent les agriculteurs et leurs syndicats, dans une autre dimension. Voilà pourquoi les mobilisations se poursuivent à Besançon, à Carcassonne, à Rodez ou en Ariège où un nouveau foyer de la maladie a été détecté. Et nous retrouvons notre reporter pour ici Occitanie, Théo Cobel. Théo, en direct de la ferme des Bordes sur Arize où 207 bêtes pourraient être abattues aujourd'hui. Près de 400 agriculteurs, Théo, sur cette exploitation. Et la situation se tend d'heure en heure.
Oui, les agriculteurs qui se préparent au rapport de force avec les CRS, les forces de l'ordre, positionnés avec leurs tracteurs de chaque côté de cette route qui mène à cette ferme, plusieurs niveaux de barrages pour tenter de bloquer le plus possible une avancée de ces forces de l'ordre. La tension ici qui est vraiment montée d'un cran il y a un peu plus d'une heure tout juste lorsque les représentants du mouvement ont annoncé le rejet par les services de l'État du protocole d'accord, celui proposé hier par les syndicats agricoles et donc à l'arrivée possible dans les prochaines minutes des forces de l'ordre pour permettre l'abattage des bêtes par les services vétérinaires. On a vraiment senti dans la foule tout d'un coup une colère montée, une détermination aussi pour sauver ces 207 vaches, pour soutenir également l'agriculteur touché. Les manifestants qui se sont donc positionnés et qui s'échangent en ce moment même des vidéos prises un peu plus bas dans la vallée où on voit justement les fourgons de CRS avancer.
Merci beaucoup Théo Cobel sur place pour ici Occitanie, près de cette ferme qui cristallise ces tensions et les interrogations sur le protocole sanitaire. À vos côtés, les agriculteurs, les syndicats sont mobilisés, en particulier la coordination rurale, deuxième syndicat agricole français dont je reçois le président qui est sur place également. Bonjour Bertrand Ventot.
Bonjour.
Vous êtes monsieur Ventot, éleveur bovin en Haute-Vienne et vous avez souhaité quitter votre région pour rejoindre vos collègues. Qu'êtes-vous venu leur dire depuis ce matin ?
Je suis venu leur dire que la situation sanitaire a échappé à Madame Genevard, quoi, parce qu'elle nous avait dit que en Savoie, il n'y aurait pas de problème, ce serait sous contrôle. Donc la situation sur la DNC est hors de contrôle, que Madame Genevard ne veut pas revoir sa copie, on l'a vu encore ce matin, et qu'il faut qu'elle la revoie. Il faut qu'elle la revoie pour qu'on arrête d'abattre des animaux sains. C'est pas possible pour les éleveurs, c'est pas possible pour la filière. Il faut vraiment qu'elle arrête de s'entêter, et il faut vraiment aussi que les autres syndicats agricoles, je pense en particulier à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, nous rejoignent à demander la vaccination et l'arrêt des abattages d'animaux qui sont sains.
Oui, car pour reprendre le protocole et le sujet soutenu par les autorités, on l'a entendu de nouveau ce matin sur ICI Occitanie, le préfet maintient, Bertrand Ventot, que l'abattage est la seule solution efficace pour préserver le cheptel français. Vous vous dites non.
Je dis non parce que en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Corse où tous les animaux ont été vaccinés, ou le protocole, ou ce qui s'est passé en Italie, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et ça a marché. Et je pense même à l'exemple suisse aussi où on ne parle plus DNC. Donc aujourd'hui, on a un problème d'appréhension de la DNC et d'autres maladies d'ailleurs par les services vétérinaires de l'État. Donc c'est vraiment, on est vraiment basé sur du principe de précaution XXL et qui fait qu'on fait des ravages chez les éleveurs sur leurs vaches et qu'on est en train de mettre en péril toute une filière. Et de dégoûter les éleveurs de continuer. Et ici, il y a une tension qui est extrêmement forte. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a plus de 800 paysans. Vous entendez les tronçonneuses qui tombent les arbres pour empêcher que les forces de l'ordre arrivent. La route d'accès est coupée. Est-ce que Annie Genevard va un jour écouter et arrêter de s'entêter dans son protocole qui ne marche pas ? Elle n'arrive pas à contenir la maladie, la preuve en est.
À tout le moins, Bertrand Ventot, vous proposez un protocole allégé aux autorités, c'est-à-dire pas d'abattage systématique, en revanche une vaccination massive. Je rappelle que le protocole allégé que vous avez proposé ce matin a été a priori donc rejeté par l'État. Vous ne perdez pas espoir dans cet échange et dans le fait de pouvoir trouver un compromis sur cette maladie qui met aujourd'hui des cheptels en péril ?
Il faut qu'Annie Genevard, elle a voulu partir sur un protocole qui était vaccination plus abattage. Oui. Donc maintenant, il faut qu'elle aille au bout du raisonnement sur la vaccination et les accords commerciaux qui sont brandis en disant, enfin du moins la possibilité de plus pouvoir exporter, déjà le cas de l'Italie montre qu'un accord a été passé. Mm-hmm. Donc en fait, ce ne sont que des négociations commerciales. On prend le déclassement de la maladie aussi, mais si on prend l'exemple de la grippe aviaire qui est encore classée A, ça ne nous empêche en aucun cas d'exporter. Donc c'est des accords commerciaux qui vont primer sur tout ça. Il faut qu'elle se réveille, elle va nous mettre le feu à feu et à sang, la ruralité, les paysans, ce qui va se passer aujourd'hui va amplifier la colère et va se répandre partout en France. C'est écrit, il faut qu'elle change vraiment son logiciel et qu'elle nous écoute.
Oui, manifestement, cette ferme cristallise les tensions et le symbole de ce protocole sanitaire qui ne fonctionne pas, dites-vous, en tant que syndicat et qu'éleveur, face à cette dermatose nodulaire, cette maladie virale. Vous évoquiez des centaines d'agriculteurs sur cette ferme en Ariège. Certains s'apprêtant à un combat avec les forces de l'ordre. Est-ce que le terme de combat est le bon? Est-ce que vous êtes prêt vous-même aussi pour la coordination rurale à en découdre, entre guillemets, avec les gendarmes et les policiers mobilisés, Bertrand Manteau?
Écoutez, c'est pas notre but. Le but, c'est que Annie Genevard arrête cette opération massive qui n'a aucun sens et qui est en train de monter des gens qui veulent simplement travailler. Nous voulons simplement travailler et conserver nos animaux. On ne veut que travailler et on est prêt à défendre nos animaux. Mmh. Effectivement, dans des conditions qui risquent d'être périlleuses. On n'a pas forcément envie d'aller forcément au combat face aux forces de l'ordre. C'est leur mission. Mais effectivement, les retarder le plus possible et essayer de sauver un maximum d'animaux, eh bien, ça vaut de prendre des gaz lacrymaux, ça vaut d'être en garde à vue et ça vaut peut-être de prendre des coups de matraque. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On en est rendu là parce que l'État ne nous écoute pas. On n'a pas forcément envie d'aller au frontal face aux forces de l'ordre. C'est leur maintien de sécurité, on sait que c'est eux. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à part s'opposer à eux? On n'a plus d'autre choix.
Votre objectif, Bertrand Manteau, c'est de sauver ces 207 bêtes. Vous ne voulez pas que les vétérinaires entrent dans cette propriété pour venir les euthanasier aujourd'hui ou demain?
Effectivement, c'est en conserver un maximum, c'est que le protocole qui avait été proposé se mette en place. C'est pas grave de revenir en arrière, madame Genevard, pour revenir en arrière, que les animaux qui vont être testés, que cette ferme soit une ferme test, essayer d'en sauver un maximum. Mais le symbole d'aujourd'hui, comme ce qui s'est passé dans le Doubs, c'est qu'il faut vraiment que le protocole change et que la ministre arrête de s'entêter, parce qu'en fait, il y a moyen de sauver des animaux en changeant simplement le protocole et en même temps d'endiguer la maladie. C'est là où on la comprend pas, où on la comprend plus et on n'a plus envie de la comprendre.
Si je comprends bien, vous souhaitez qu'Annie Genevard vous rejoigne aussi en situation, sur ce terrain, en Ariège, pour constater, pour échanger avec vous, Bertrand Manteau, ou vous n'espérez plus de cet échange?
Elle a sur place, Jérôme Bayle, elle a la coordination rurale, elle a la confédération paysanne et quelques membres de la FDSEA de l'Ariège qui sont en désaccord avec la FNSEA nationale. Le meilleur moyen qu'elle puisse nous faire, c'est dire, je mets un stop, j'appelle au calme, je vais discuter sur place, on va discuter sur ce qui va se passer pour cet élevage et ce que je vais mettre en place avec vous, là, les gens de terrain, les éleveurs touchés, pas une fois que les animaux sont tués, avant qu'ils soient tués, pour essayer d'en épargner un maximum. Annie Genevard doit venir nous rejoindre. Si c'est une vraie républicaine, ce dont elle se réclame, elle doit venir discuter avec nous et voir concrètement, avant l'abattage, elle est en capacité, c'est une ligne politique, elle est en capacité de changer son protocole et parce que ce qu'elle est en train de faire, très exactement, je vais vous dire, et on le souhaite pas, on aurait souhaité qu'elle ait eu raison pour les Savoies, on aurait souhaité qu'elle ait eu raison pour les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce qui est en train de se passer, c'est que pendant l'hiver ou au printemps, les zones vont s'agrandir, la contamination va s'agrandir et on va faire tuer des animaux pour rien. Vous savez, quand on est éleveur et qu'on est dans une zone qui est impactée par la tuberculose, qu'en plus on risque d'avoir la grippe aviaire et qu'en plus on risque d'avoir la DNC au printemps, en perspective pour des gens qui veulent que produire et qui veulent encore produire pour que la balance commerciale redevienne positive, eh bien on se fait entraver par une ministre. Alors on le vit pas bien, non?
Oui. Bertrand Manteau, vous êtes en Ariège, mais je le répète, vous êtes président du deuxième syndicat agricole français, la coordination rurale, éleveur bovin en Haute-Vienne. J'évoquais des rassemblements, des mobilisations qui ont eu lieu à Besançon, à Carcassonne, à Rodez. Après l'Ariège, est-ce que ce mouvement, vous appelez à ce qu'il se démultiplie, est-ce que vous êtes prêt aussi, pour ce qui concerne le site sur lequel vous vous trouvez, à tenir un siège durablement ?
Ben alors, déjà, sur l'amplification des mouvements, il est clair que si les animaux sont abattus, ben effectivement, il y a un appel qui a été passé à ce que, dès qu'il y aura un cas de DNC qui va apparaître dans un autre département, la mobilisation s'amplifie, que les actions aussi en riposte par rapport à ce qui risque de se passer ici sur l'abattage, effectivement, l'ordre a été passé que ben, les CR dans tous les départements sortent. Elles seront peut-être très désorganisées, mais elles ont une énorme envie de sortir. Et puis, voilà, je peux pas vous dire, autre chose, quoi. On est désabusé, la colère est en train de monter, elle est en train de se cristalliser. Et il faut vraiment qu'on ait une réponse politique de la ministre qui n'est pas de gagner du temps pour nous prendre pour des idiots et dire non, ce que vous proposez, ça ne marche pas. Ce qu'on propose, c'est une vraie piste de sortie pour la ministre et pour les éleveurs et pour l'élevage français.
Merci Bertrand Vinteau pour la coordination rurale. Vous qui appelez, si elle est républicaine, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, à faire de cette ferme une ferme test, à venir échanger, alléger ce protocole. Et vous qui appelez également, on l'a entendu en début d'interview, la FNSEA et les FDSEA à vous rejoindre dans ce combat. Il est 13h15 et dans l'actualité encore et dans ma France, nous vous détaillons le panier de Noël ici et France Info avec Nielsen IQ. Panier moyen pour les fêtes dont nous analysons l'évolution en termes de prix. Et ce panier est en légère baisse par rapport à l'an passé. Nos équipes ont passé au crible le prix de 12 produits festifs, 2 euros moins cher qu'en 2024 en moyenne. La dinde, le foie gras, le saumon fumé, les bûches glacées sont toutes moins chères qu'il y a un an. Dans la constitution du menu de fête, les Français flairent d'ailleurs toujours les bons plans. Jules Frécon a promené son micro dans les rues de Saint-Étienne.
Pour cette année, Gwenaëlle a déjà acheté une partie de son repas du réveillon.
Quand c'est la saison, par exemple, des Saint-Jacques fin novembre, je vais les acheter fin novembre, j'essaye de penser avant et de les congeler. Il y a possibilité de trouver quand même des offres intéressantes et de sauter sur les promotions. Ouais.
La mienne ne sait pas encore ce qu'elle mangera le 25 décembre, mais une chose est sûre, elle utilisera ses astuces pour profiter de prix réduits.
Les Too Good To Go, c'est un panier de produits à date plus courte qui sont vendus moins cher qu'en commerce. Après, il y a aussi le système des paniers dans les supermarchés. C'est vrai qu'on choisit pas forcément, mais il y a par exemple chez Intermarché qui font la marée. Voilà, des paniers marée.
Sur le parking du supermarché, Mylène range ses sacs de courses dans sa voiture. Elle a commencé ses achats de Noël. Et elle remarque des prix plus hauts cette année.
Tout ce qui est repas de Noël, ça a vraiment augmenté.
Comment vous faites du coup pour essayer de payer un peu moins cher ?
Eh bien écoutez, vu que pour une fois dans l'année on fête Noël, donc on ne va pas se priver.
Dans son sac, Mylène a glissé des chocolats, un des produits les plus impactés par la hausse des prix. Il coûte en moyenne 20% plus cher que l'an dernier.
Et oui, le prix des chocolats qui bondit, qui devient un produit de luxe, et cela s'explique par la hausse du prix du cacao à la sortie d'un hypermarché à Vertes dans le Périgord. Nathalie, amatrice de chocolat noir, a changé de méthode, pas le choix.
Maintenant, je me suis rabattue sur la marque magasin, qui est 1 euro et quelques, quoi. Les marques, c'est plus possible. Ben, on prend ce qui est en bas du rayon, c'est-à-dire le moins cher. On a bien réduit la dose. Juste un demi-carré le matin et le midi. Ah, bah, avant, c'est surtout mon mari qui mange beaucoup de chocolat. Lui, il pouvait manger une demi-plaque par jour sans faire attention, voir la plaque. Bon, c'était presque tous les deux jours, on va dire, en moyenne. Donc ça faisait quand même un beau budget à la fin du mois, hein. Presque 100 balles de chocolat. Mais dans la tablette, elle reste là la semaine, ça va. C'est devenu un luxe quoi d'acheter du chocolat comme ça régulièrement.
Un prix du chocolat qui explose comme celui des coquilles Saint-Jacques, plus 10% plus cher en moyenne que l'an passé. Ce sont les conclusions de notre enquête ici, France Info, Nielsen IQ, que vous retrouvez notamment sur notre site internet. Et en dehors des courses alimentaires pour les fêtes, vous êtes peut-être en train de boucler vos derniers cadeaux. Des milliers de Français ont recours aux crédits municipaux pour les financer, ces cadeaux. 40% de nos concitoyens passeront par le crédit tout court. Résultat d'une étude flash pour la société de courtage Imancy. Des crédits qu'il faudra même payer jusqu'au printemps. Mais le choix pour beaucoup est fait. Audrey Morelato.
80% des sondés justifient bien leurs dépenses de Noël par l'envie de faire plaisir, et c'est tant mieux. Mais 59%, bien plus que la moitié, ont peur d'offrir un cadeau moins cher que celui qu'ils pourraient recevoir. Peur de donner l'impression d'être radin, c'est le terme utilisé dans l'étude. Face à cette pression, les dépenses peuvent s'envoler. 56% des Français seront encore en train de payer leurs achats en mars ou avril, soit pour rembourser un crédit ou leurs agios suite à un découvert, soit parce qu'il leur reste des versements du fameux paiement en 3, 5, 10, 20 fois sans frais. Et pour faire face à ces difficultés qui se reportent en début d'année, Presque la moitié utiliseront l'argent reçu en cadeau de Noël, justement pour rembourser ce qu'ils ont acheté.
Et puisqu'on parle de difficultés de pouvoir d'achat, notez que les tarifs des mutuelles, eux aussi, ne cessent de flamber. Ouais. En fonction de votre âge et du lieu où vous habitez, les prix font le grand écart. Si vous habitez Paris, Lyon, Marseille ou Nice et que vous avez 70 ans ou plus, eh bien vous cochez toutes les cases pour payer votre mutuelle le plus cher possible. Une nouvelle réunion aujourd'hui sur la lutte contre le narcotrafic est organisée à l'Élysée. Les autorités veulent convaincre décidément de l'efficacité de leurs opérations sur les points de deal avec des saisies, records, des coups de filet. Au lendemain de l'assassinat à Marseille du frère d'un militant antidrogue, Emmanuel Macron avait appelé les forces de l'ordre à intensifier les opérations. Et bien hier, à Marseille justement, 1500 policiers ont été déployés dans le cadre de cette opération anti-stup dans les quartiers nord sur 15 points de deal, 4773 personnes contrôlées, 114 interpellations et 82 gardes à vue. Bonjour Coralie Moreau.
Bonjour.
Pour le service police-justice d'ici, vous enquêtez avec nous sur ce dossier d'ampleur et à Rouen, hier soir, vous avez suivi l'une de ces opérations en Normandie donc.
Avec pour cible le quartier de la Sablière, principal lieu de trafic avec 4 ou 5 points de deal. Ici, les descentes de police sont nombreuses, presque quotidiennes. Le commissaire Christophe Furien est le directeur de la sécurité publique. Il est avec une dizaine d'hommes qui contrôlent les halls d'immeubles et ça commence par les guetteurs.
Il a un petit siège qui va permettre de faire passer le temps un peu plus confortablement.
Ensuite, c'est la fouille des caves et des cages d'escalier et c'est le chien Luna qui fait le travail.
Un peu de résine de cannabis.
T'es posé à côté d'une gaine, c'est le chien qui marque au pied de la...
Alors sur le terrain, rien n'a vraiment changé, mais la loi narcotrafic appliquée depuis le mois de septembre offre de nouveaux leviers pour désorganiser les trafics. Le préfet peut désormais interdire les trafiquants dans certains quartiers, et ça marche, estime le commissaire Urien.
Sur ce secteur-là, sans vous dire de bêtises, on a 4 mesures d'interdiction de paraître qui ont été proposées aux services préfectoraux, qui ont été suivies. Donc des gens qui, dans le cadre de procédures de police judiciaire, avaient été identifiés, qui vendaient ici, ou participaient au trafic, mais qui n'habitaient pas les lieux. Donc ces personnes-là font l'objet aujourd'hui d'interdiction de paraître.
2 n'ont pas respecté l'interdiction. Là encore, la loi permet désormais une réponse rapide. Un des 2 jeunes a été incarcéré.
Alors Coralie Moreau, on peut interdire les dealers dans certains quartiers. Est-ce que c'est tout ce qu'offre au fond la nouvelle loi narcotrafic?
Non, alors le pouvoir de police administrative des préfets a été renforcé pour l'interdiction de paraître, vous venez de l'entendre, mais aussi pour faciliter la fermeture de commerces où des trafics sont avérés et les expulsions locatives quand des appartements sont identifiés comme lieu de deal. Là encore, depuis septembre, ça fonctionne, estime Julia Capelden, c'est la directrice de cabinet du préfet de la Seine-Maritime.
Sur la fermeture de commerce, nous avons une situation qui est en cours d'examen, qui pourrait aboutir prochainement. Et sur les expulsions locatives, nous en avons réalisé une et nous en avons plusieurs qui sont là aussi en cours de procédure et qui devraient aboutir prochainement. Donc oui, il y a ce vrai besoin d'agir plus vite, d'agir plus fort. Et c'est les leviers qui nous sont proposés nous permettent de le faire et avec des premiers succès, comme je viens de l'évoquer.
Des réactions concrètes pour désorganiser le trafic qui a augmenté de 20% en un an, selon les chiffres de la préfecture. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant pour lutter contre les réseaux mafieux. La loi narcotrafic offre d'autres pouvoirs administratifs pour lutter contre les flux financiers, mais aussi contre ce qu'on appelle le Uber Sheet, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux pour passer commande, en s'attaquant cette fois à l'affichage numérique pour enlever les publications. Récemment à Rouen, un réseau de distribution a été démantelé, une plateforme de livraison installée cette fois dans un Airbnb, une façon pour les dealers de s'éloigner des quartiers et de se faire plus discret.
Coralie Moreau pour le service police-justice d'ici, merci pour cette enquête autour de la lutte contre le narcotrafic. Dans Ma France, nous revenons à présent sur les suites de l'affaire de ce petit garçon de 8 ans, entendu à Paris par une éducatrice, mise à pied dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Avant de connaître les premières conclusions des enquêteurs qui ont passé la journée hier dans cet établissement, des défaillances sont déjà mises en avant. Pourquoi l'information de cette maltraitance commise en avril n'est pas remonté plus vite et plus haut? Le rapport doit arriver sur le bureau d'Anne Hidalgo qui dira à l'avenir si ce foyer doit faire l'objet de sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait des financements et jusqu'à sa perte d'agrément. Michel Hamas est avocat. Il souligne le manque de formation des personnels employés dans les foyers et dénonce l'inaction des pouvoirs publics.
Il y a des éducateurs qui sont pas formés, souvent ils sont pas diplômés, ils sont pas tous éduxpé, donc il y a des gens qui exercent dans ces foyers qui sont pas du tout diplômés. Ceux qui restent par exemple la nuit, avec les enfants dans les foyers. La plupart du temps, ils ne sont pas éduxp du tout. Ce qu'on a essentiellement, ce n'est pas tellement la violence de l'éducateur sur l'enfant. Hein. Ce qu'on a essentiellement, c'est des agressions entre les enfants qui sont d'une violence rare et qui ne sont pas contrôlées. La seule administration en France qui n'a aucun contrôle, ni a priori, ni a posteriori, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les foyers. Aujourd'hui, on peut affirmer en France que l'aide sociale à l'enfance ne protège pas les enfants.
Et aujourd'hui, les députés ont adopté à l'unanimité une loi pour garantir un avocat aux enfants placés ou protégés. Ils sont 380 000 enfants et jeunes dans les foyers et dans les familles d'accueil.
Ici, l'actu au cœur des territoires. Ma France.
Et au plus près de chez vous, commençons ce tour des régions avec une très belle histoire dans la Creuse. Un jeune homme de 16 ans qui a reçu une médaille à Paris pour sa bravoure et son sang-froid. Il s'appelle Raphaël Godeby. Il a sauvé l'un de ses amis lors d'une soirée. Ami victime d'un tir accidentel de pistolet à l'abdomen. Il a réagi immédiatement, appliquant les gestes de secours qu'il avait appris lors de sa formation de jeune pompier. Marie-Jeanne Delepol, c'est donc l'acte magnifique de courage et de solidarité de ce jeune Creusois qui a été honoré hier à Paris.
Casque rouge sur la tête, médaille autour du cou, Raphaël défile sur les Champs-Élysées et sous l'Arc de Triomphe. Une bonne partie de sa famille assiste à la cérémonie, raconte sa mère Marie-Laure.
Moi, son père, son beau-père, sa grand-mère est venue d'Angleterre également, son petit frère. C'était vraiment très très impressionnant.
Et tout le monde pleurait ?
Oui, tout à fait. Enfin, surtout moi. Grande fierté, oui, effectivement.
Fierté de le voir recevoir le prix de l'engagement citoyen remis par l'Ordre National du Mérite. Raphaël, lui, a encore du mal à réaliser.
J'étais assez gêné sur la scène. J'ai pas forcément l'habitude, ça fait quelque chose quand même. Enfin, c'est difficile parce qu'en plus, ça ramène tous les souvenirs de ce qui s'est passé.
Les souvenirs de cette nuit d'avril 2024 quand il sauve la vie d'un de ses copains blessé par balle, par accident.
Je faisais les compressions et je maintenais mon ami conscient. Ce jour-là, quand il est tombé, je me suis juste dit, oui, j'ai été formé pour ça. Et sans cette formation-là, j'aurais pas pu réagir, j'aurais pas su comment faire.
C'était la première fois qu'il faisait pour de vrai les gestes de premier secours, lui qui a toujours voulu devenir pompier.
Ah, c'est cette passion de sauver les gens. Ça m'a toujours attiré. Tout ce que j'ai voulu faire à chaque fois, c'était vouloir aider les gens.
Dès l'âge de 12 ans, il rédige sa lettre de motivation et intègre les jeunes sapeurs-pompiers. Il est désormais volontaire à Bourganeuf.
Raphaël, élève au lycée qui se destine à devenir pompier professionnel. Après le Périgord, la saison des truffes est lancée dans le Gard. Dans Ma France, nous sommes à Uzès pour vous parler de ce marché dédié place aux herbes jusqu'en mars. Des producteurs qui vont se relayer par dizaines pour venir vendre cette précieuse pépite noire vendue à actuellement à 90 euros les 100 grammes. Anouk Caron, plusieurs passants à Uzès attendaient avec impatience le lancement de cette belle saison gustative.
Jacques, retraité, est ravi de retrouver la truffe sur le marché d'Uzès.
Ah, moi la truffe, j'adore ça, oui. Je ne peux pas passer un hiver sans truffe.
Vous la mangez comment ?
Oh là là, alors je fais une petite recette, je fais du beurre truffé, c'est extraordinaire.
Juste à côté, Paul, habitante d'Uzès, achète sa première truffe de la saison. Vous l'attendiez ou pas ?
Oui, tous les ans, pour les fêtes, on attend un peu la truffe, quoi, voilà. Mais en principe, la meilleure truffe, elle est en janvier.
Mais là, vous en avez quand même pris ?
Un tout petit bout pour mettre dans mon foie gras. C'est super bon.
Les clients sont au rendez-vous et ça fait plaisir à Alain Prat, trufficulteur à Montaran et Saint-Médié, car cette année...
On va avoir une production, je pense, moins importante que l'année dernière.
De beaucoup ?
Pour l'instant, oui, on est à peu près à la moitié de ce qu'on récoltait à pareille époque l'an dernier.
La sécheresse et le manque de pluie pourraient être à l'origine de cette baisse de production, mais pour l'instant, ça ne se ressent pas dans les prix. Comme l'an dernier, la truffe est vendue à 90 euros les 100 grammes.
Ça paraît cher, mais en fait, avec une petite quantité de truffe, on peut se faire plaisir. Une truffe de 20 grammes, vous pouvez faire une bonne brouillade truffée. C'est le prix d'un mauvais champagne, hein, finalement.
L'idée pour les trufficulteurs, c'est de ne pas dépasser les 1000 euros le kilo, même si la saison s'annonce moins bonne cette année.
Des producteurs de truffes place aux herbes à Uzès tous les mercredis et samedi matin. Notez que la fête de la truffe aura lieu les 17 et 18 janvier cette année à Uzès.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Et on se quitte avec votre rendez-vous anti-arnaque au Drazo. Et cette question, faudra-t-il bientôt déclarer tous les dons aux impôts, même les cadeaux de Noël et même l'argent de poche ? On vous pose la question parce qu'elle tourne beaucoup sur les réseaux sociaux.
Et la réponse, c'est que c'est totalement faux. Pourtant, ça fait quelques jours que je vois des vidéos partout à ce sujet.
À partir du 1er janvier 2026, tous les dons d'argent devront être déclarés en ligne sur impots.gouv. Chaque coup de pouce que tu donnes à un proche, tout devra passer par la case déclaration numérique. Donc t'es là, tu dépannes 50 euros à ta copine, ton pote, etc.,
il va falloir déclarer.
Bon, alors il y a beaucoup de faux dans ce que dit ce jeune homme, mais il y a un tout petit peu de vrai. Le petit peu de vrai, c'est que en 2026, changement, si vous faites une donation à votre enfant, il devra obligatoirement la déclarer via Internet. Jusque-là, il pouvait toujours le faire par courrier. 2026, ce sera impots.gouv.fr et rien d'autre.
Oui, en revanche, pour l'argent de poche, Audrazo, c'est faux, on ne devra pas évidemment le déclarer sur Internet.
Non, non, pas du tout. Si vous donnez un billet de 50 euros à Noël à vos petits-enfants, si vous donnez des étrennes à votre gardien d'immeuble, si vous donnez, 100 euros au mariage de votre cousin, vous n'avez rien à déclarer. La déclaration, il n'y a pas de seuil minimum, mais c'est quand le cadeau est un gros cadeau exceptionnel que vous cassez à la tirelire, en quelque sorte. Et puis, autre précision, ce n'est pas parce que vous déclarez un don que vous allez payer des impôts dessus. L'an dernier, moins de 2% des dons déclarés sur Internet ont été taxés. En fait, les déclaration, c'est surtout pour avoir une trace et pour éviter les conflits sur les héritages, par exemple.
Eh bien, merci pour mettre les points sur les i aussi auprès de nos auditeurs d'ici. Audrazo, votre chronique à retrouver sur ici.fr et à l'issue de Ma France au quotidien. Merci de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les infos sont également à suivre sur ici.fr. Passez un très bel après-midi à l'écoute de vos programmes locaux, l'info, la proximité, la bonne humeur. C'est Marine Le Génie que vous retrouvez demain dans Ma France. Merci à vous tous.
Ici, le Crédit Mutuel donne le la à la musique en live. Ce jeudi, vous allez adorer le concert de Clara Luciani, enregistré au Ici Live de Reims. Clara Luciani en live à Reims. Un moment unique. Ici, ce jeudi, dès 20h. Occitanie Express, vos bons plans, vos idées sorties.
Une balade à moto pour les Restos du Cœur et un marché de Noël solidaire. Occitanie Express est à Toulouse et c'est maintenant.
Pascal Westbrook.
Oubliez le traîneau. À Toulouse, le Père Noël arrive samedi à moto à les Fernand Jourdan pour la 15e balade de Noël des motards. L'occasion de montrer votre grand cœur en apportant un jouet neuf qui sera remis aux enfants des Restos du Cœur de Toulouse. Avec de la restauration, une animation musicale et une tombola exceptionnelle, sans oublier l'incontournable grande parade des motards dans la ville de Toulouse. Rendez-vous samedi à les Fernand Jourdan à Toulouse. Le départ de la balade est prévu à 18h. Direction maintenant les allées Jules Guesde, toujours à Toulouse, pour la 18e édition du marché de Noël de l'économie sociale et solidaire. Vous y trouverez des bijoux, des sirops, du textile et même de l'art floral. Et puis alors n'oubliez pas les nocturnes festives les vendredis et samedis soirs avec une guinguette d'hiver qui vous propose du vin chaud, des bières naturelles à consommer avec modération et de la restauration locale gourmande. L'accès est gratuit, ça commence samedi. Rendez-vous allée Jules Guesde à Toulouse et vous pouvez en profiter jusqu'au 21 décembre. Occitanie Express, on revient dans une heure.
Ici Occitanie.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Celui qui chante son histoire, un autre histoire au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandi et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. We'll be right back.
La réponse est oui, Michel Berger est bel et bien celui qui chante, comme ça vous le saurez. Ici Occitanie vous souhaite un excellent jeudi. Le jeudi, c'est l'écho d'ici dans quelques minutes. Et puis c'est aussi la musique avec Jeannette. Alors non, non, ne se lève pas tous pour Jeannette. C'est Porqué Tevas qu'on écoutera après le dernier titre d'Amir, Avec toi. Nouveauté ici Occitanie.
Je sais bien que t'as voyagé dans les plus beaux pays, goûté les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. J'ai compris, avec moi, c'est vrai que notre lit sera plus petit. Parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi. Juste pour plus de temps avec toi, j'ai des milliers de jolies choses à te dire, mais pas une seule en est assez belle pour ça. Si on se dit rien, j'aurai pas de mal à tenir. Du moment que je pose mes yeux sur toi, 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 toi. Il t'a habillé de bijoux de parure, de tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. Vous vivez dans le plus bel appart de la rue. J'ai compris, avec moi, t'as pas besoin de tout ça puisque rien ne t'habille. Nous on vivra au-dessus du monde sur les toits. Et de toute façon les bijoux ça s'abîme. Le seul qui compte sera la nôtre.
Occitanie.
Paz. Como cada noche.
Occitanie, votre radio locale, toujours avec vous.
Ici Occitanie, il est l'heure de retrouver les acteurs de l'économie locale qui racontent comment ils contribuent à l'éco d'ici.
La patronne régionale d'Enedis, le gestionnaire historique du réseau de distribution d'électricité, est avec nous. Bonjour Karina Scaratelli.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Vous gérez la zone Haute-Garonne, Gers et Ariège. Vous êtes arrivée en août dernier. Bienvenue. L'une de vos priorités, de votre mandat, si on peut dire, ça va être l'adaptation au changement climatique. Ça va passer par quoi, ça ?
Alors, on a... Vous avez vu, enfin, en plus en Occitanie, on a été gâtés, on a de plus en plus d'épisodes d'aléas climatiques,
beaucoup
de plus en plus fréquents. Ouais, beaucoup de vent, beaucoup d'orages, de pluie. Et tout ça met à mal nos ouvrages. Donc en fait, on a tout un plan de résilience de nos réseaux. La moitié, on va dire, sont aériens, l'autre moitié enterrés. Mmh. Et donc soit on les consolide en utilisant des matériaux, des techniques beaucoup plus avancées qu'il y a 70 ans lorsqu'on a posé les premiers réseaux.
On les consolide ou on les change ?
On peut changer certains morceaux, on peut mettre des matériaux plus solides, au lieu de mettre un fil, on en met trois.
Soit
on les enterre lorsqu'ils sont soumis à des vents violents.
La stratégie, ça va être de plus en plus enterré chez nous ou pas forcément ?
Ça dépend vraiment des endroits. Quand on crée des nouveaux réseaux de haute tension, là, on les enterre. Quasi systématiquement. Mais il y a plusieurs endroits où finalement, au moment où il y a des coupures, parce qu'il peut y avoir des branches qui interrompent finalement l'alimentation électrique, alors il est plus facile d'intervenir lorsqu'ils sont aériens. Donc c'est vraiment une analyse au cas par cas, en fonction des zones où se situent nos réseaux.
Vous avez chiffré combien ça peut coûter, ça ?
Oui, on a un investissement d'ici 2040 qui sera au niveau national de 96 millions d'euros. Donc c'est très élevé, et la moitié à peu près sur la résilience des réseaux, et on va dire que l'Occitanie doit peser 10%.
Il faut aussi gérer la transition énergétique. Ah oui. Là, c'est plus la question des panneaux solaires. Peut-être qu'est-ce que vous faites là-dessus, sur cette question de la transition ?
Alors, on est au cœur. Enedis est au cœur de la transition énergétique. C'est un des enjeux majeurs qui nous anime. On a à la fois, et vous avez raison, le raccordement des producteurs, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou alors de l'éolien. Mais ce n'est pas que ça. C'est également accompagner le changement des habitudes des Français. Et là, c'est le raccordement de bornes de recharge pour qu'ils puissent recharger leur véhicule électrique à la fois en ville, en campagne, sur les autoroutes, chez eux. Donc on fait énormément de raccordements de bornes de recharge.
Là, pareil, combien de raccordements peut-être sont prévus dans la région dont vous vous occupez à terme ?
On va dire que chaque année, à peu près, on a plus de 1000 raccordements qui sont réalisés. Et ça va plutôt en s'accélérant, avec un engouement assez fort, et notamment en Occitanie.
Et ça pose pas de problème, ça, pour Enedis
Non, on s'est organisé, en fait. Lorsqu'il y a eu ce fort engouement, à la fois sur la production d'énergie renouvelable et à la fois sur le raccordement électrique, on a structuré à la fois nos services, mais également musclés, recrutés.
Et d'ailleurs, vous avez besoin, je crois, de bras. Vous montez des filières de formation électrique, notamment à Saint-Matan. On mettra les infos sur l'appli ici. Karina Scaratelli, directrice régionale Midi-Pyrénées Sud, référente Occitanie pour Enedis. Bonne journée, merci.
Merci beaucoup.
Ici Occitanie.
Et les torchers, les grues patraquent.
Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds, les peines qu'on récolte et tout et mes sautes de boussole. Et toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbeaux. De Bach, je donnerai Ray Charles, Mozart en vrac, la vie en rose, le rock and roll, tous ces mémoires et tous ces couacs.
Vos chansons préférées toute la journée,
c'est ici Occitanie.
de lui offrir des fleurs, Ed Sheeran offre une chanson à sa femme. Ah bah oui, quelle frime. Ici Occitanie, Azizam. Actu, musique et bonne humeur. L'actu c'est à 14h, mais d'abord tentons de résoudre l'énigme que nous pose Nick Kershaw, The Riddle, et faisons une prière laïque, ainsi soit-il, avec Louis Chédid. À tout de suite.
Papa, tu crois que pour Noël, je pourrais avoir le déguisement qu'on a vu l'autre jour ?
Tu sais, Axel, le Père Noël est déjà passé chez nous l'année dernière. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il repasse cette année.
Comme le papa d'Axel, un parent sur trois redoute de ne pas pouvoir offrir de cadeaux cette année. Pour que Noël reste une fête, l'association Dons Solidaires distribue 1 million de cadeaux aux familles en difficulté et aux personnes isolées. Soutenez notre action. Rendez-vous sur donsolidaires.fr.
Passez de bonnes fêtes avec Ici Occitanie.
Toute la journée, actu locale, musique et bonne humeur.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, au plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Trafling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Occitanie vous souhaite de joyeuses fêtes.
I'm ICI, ICI, une radio, une appli, au cœur du Midi Toulousain, ICI Occitanie.
Très bonne journée, ICI Occitanie, 14h, c'est l'heure de l'info.
Essayer de sauver un maximum d'animaux, ça vaut d'être en garde à vue, de prendre des coups de matraque. L'avertissement de Bertrand Venteau, le nouveau patron de la coordination rurale sur l'antenne d'ici ce midi. Il est auprès des 400 agriculteurs qui attendent les forces de l'ordre en Ariège dans une ferme des Bordes sur Arize. 207 bovins doivent être abattus aujourd'hui à cause de la dermatose nodulaire. Le choc pour les salariés et la fin d'un fleuron de l'industrie française. Le groupe centenaire d'électroménager Brandt est placé en liquidation judiciaire. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre n'a pas retenu le projet de SCOP présenté par les salariés. 700 emplois environ supprimés, notamment sur les deux sites de production de la région Centre-Val-de-Loire. Le pilote de l'avion de tourisme qui s'est écrasé près de l'aéroport du Havre-Octeville en Seine-Maritime n'a pas survécu. L'engin s'est crashé peu après son décollage ce matin. Les